Et bon, surtout, je vous félicite parce que je pense que plusieurs d'entre vous ont déjà eu des cours dans la journée. Et donc, se rajouter un cours au fond encore en fin de soirée, donc vous méritez, je dirais, tout à fait vos estimes. Alors, je suis désolée un peu de la position là, donc je trône un peu au-dessus de vos têtes. Mais bon, je pense que la salle, disons, ne paraît pas d'autres présentations possibles. Ça permet aussi de rester assis, ce qui est moins fatigant pour moi. Mais bon. Donc, le titre donc, que nous avons choisi, peut-on être scientifique et croyant? En fait, c'est une question qui m'est souvent posée. Donc, quand je parle de ma formation double, hein, formation à la fois en physique et en théologique, souvent les gens sont surpris et sont étonnés qu'on puisse être à la fois physicienne et théologienne. En fait, je me rappelle encore bien la réaction d'un certain nombre de mes collègues quand je leur annonçais que j'allais quitter la physique. Donc, j'étais à l'époque en recherche de physique théorique et solide et que j'allais donc, en fait, ne pas poursuivre mes études hein, parce que j'avais donc un premier diplôme et que j'allais plutôt faire de la théologie. Et c'est vrai, donc beaucoup s'étonnaient de cette démarche et considérer, hein, et je dirais beaucoup, on considère jusqu'à aujourd'hui que la science et la religion s'opposent. En fait, que la science aurait largement prouvé qu'il n'est plus possible de croire en Dieu, au moins pas dans le Dieu que les églises chrétiennes ont enseigné pendant longtemps. D'ailleurs, je pose juste une question parce que je parle de son micro. Vous m'entendez bien là au fond? Bon. D'accord. Si jamais je baisse le volume, faites-moi un signe, hein, parce que c'est vrai, sans micro, c'est pas toujours évident, et la salle est grande. Donc, et souvent, je dirais, il y a un exemple hein, qui vient à l'esprit, c'est l'exemple du procès de Galilée. Cet exemple ne montre-t-il pas que la foi est hostile à l'avancement de la science? Et bien sûr, s'il y a opposition, il est sous-entendu par la plupart de nos contemporains que c'est la science qui est le guide sûr vers la vérité. Je me rappelle même une remarque, peut-être un peu provocatrice, d'un étudiant dans une situation plus similaire à celle-ci, qui a dit qu'au fond, chaque fois que les scientifiques et les églises se sont prononcés sur un même thème avec des avis contradictoires, c'est la science qui a fini par remporter. Alors, il serait intéressant de traiter le sujet sous l'angle d'un historien. Je ne suis pas historienne et donc je vais renoncer à le faire. C'est vrai, il y aurait des choses intéressantes à creuser, à découvrir, rien que pour le procès de Galilée. Si on regarde un peu plus près, on se rend compte que ce n'est pas la foi chrétienne qui s'opposerait à la science, hein, mais que c'est plutôt deux conceptions de la science qui s'affrontent. Donc, au temps de Galilée, la conception de la science aristotélicienne, qui avait marqué toute la science aussi du Moyen-Âge et que l'Église avait fait sienne, et donc la science plus moderne, d'inspiration d'ailleurs Galilée remonte, il prend plutôt Platon, et bien sûr toutes les avancées de son époque. Hein, donc ce sont deux conceptions en fait de la science qui s'affrontent, beaucoup plus que la science et la foi, parce que Galilée lui-même était chrétien et pensait même rendre service à la foi chrétienne par ses travaux. On pourrait également constater que plusieurs pères de la science moderne étaient des croyants fervents. On pourrait citer Jean Kepler, même ceux qui n'ont pas fait de physique, donc ils ne font pas des études de physique, je pense, se rappellent quand même vaguement ce nom, donc Kepler, qui a formulé les trois lois qui portent son nom, donc les trois lois qui décrivent le mouvement des planètes, ou Robert Boyle, que beaucoup considèrent être le fondateur de la chimie moderne. On pourrait même signaler Isaac Newton, même s'il n'était pas tout à fait chrétien orthodoxe, donc il a eu des convictions un peu différentes sur le dogme de la Trinité, hein, mais il était un croyant fervent, Galilée lui-même. Alors, je ne vais pas approfondir ce thème. Alors, si cela vous intéresse, vous pourrez le lire dans le premier chapitre de mon livre « Pour une philosophie chrétienne des sciences », hein, juste une parenthèse de pub. Donc, je ne vais pas traiter ce terme-là, mais je vais plutôt le prendre sous l'angle, je dirais, de la philosophie des sciences, hein, qui est donc mon domaine, parce que je suis en train de faire une thèse de doctorat donc à la Sorbonne en philosophie des sciences, qui me permet justement de, disons, d'articuler ma formation de physicienne et de théologienne. Et donc, je veux aborder ce thème, donc être scientifique et croyant, sous deux angles, hein, principalement. Premièrement, je vais essayer de défendre la thèse, hein, et bon, vous me direz à la fin de la soirée si j'ai réussi à vous convaincre. Je vais essayer donc de défendre la thèse que la science ne peut pas capter toutes les facettes de l'expérience humaine. C'est une démarche légitime, intéressante, passionnante, mais qui a ses limites. Donc, première thèse que je vais essayer de défendre. Deuxième thèse, la pratique de la science a besoin d'un fondement qui doit lui venir de l'extérieur, et j'essaierai de vous montrer, de vous convaincre du fait que la foi en Dieu, créateur de l'univers, permet à la science de trouver ce fondement dont elle a besoin. Alors, première thèse que j'appelle donc les limites de la science. Il faut que je dise en préambule, hein, donc à cette partie-là, même si je vais par la suite vous parler des limites de la science, des aspects de l'expérience humaine que la science ne peut pas capter, hein, il ne faut pas oublier que je suis de formation scientifique, et si je le suis, c'est parce que je suis fascinée par les exploits de la science. Alors, je dirais, dans mon cas, hein, je pense que ça dépend un peu du tempérament, dans mon cas, c'est d'abord pour les exploits de la science pure. Hein. Si moi j'ai commencé à faire de la physique, à m'intéresser à la physique en gros en seconde, à peu près vers cette époque-là, c'était ce que je trouvais, cette idée fascinante de pouvoir écrire des équations mathématiques qui décrivent le déroulement des phénomènes naturels. Hein, c'est une idée, c'est vrai, nous avons pris l'habitude, hein, ça fait partie de notre vision moderne du monde, mais si on y réfléchit vraiment, c'est quand même frappant qu'on peut non seulement prédire, hein, je dirais, le comportement de la nature, mais qu'on peut le décrire d'une manière si précise qu'on peut mettre des équations mathématiques et que la nature va les suivre. Alors, bien sûr, d'autres personnes seront plus fascinées par les prouesses techniques, bon, je le suis aussi, hein, donc ça serait par les applications de la science. Mais même ces réussites extraordinaires de la science ne doivent pas nous rendre aveugles. Hein, la science assure ses succès par une discipline draconienne. Elle s'impose elle-même, hein, des limites sévères. Et c'est seulement en s'imposant ses limites sévères qu'elle réussit. Alors, quelles sont ces limites? D'abord, elle exige, hein, que ses résultats soient vérifiés par l'expérience. Et pas n'importe quelle expérience, mais une expérience qui se laisse répéter, hein, que chacun peut reproduire. Ensuite, elle adopte une démarche analytique. La science cherche à isoler des situations expérimentales simples pour qu'elle puisse justement les maîtriser, pour qu'elle puisse les décrire. Tout savoir scientifique doit donc se laisser décomposer en petits morceaux. Donc, je dirais, du coup, une expérience qui serait... Qui ne se prêterait pas, je dirais, à cette analyse analytique, qui ne pourrait pas se décomposer, hein, en petits morceaux plus ou moins indépendants, hein, échappe en fait à la science. Peut-être dernière limite que je vais mentionner, il y en a d'autres, hein, le scientifique doit garder une distance critique par rapport à l'objet de son étude. Bon, il y est impliqué, hein, il ne faut pas, c'est un mythe, hein, le scientifique qui sera tout à fait neutre, sans implication personnelle. On a cru pendant un temps que c'était possible. Non, je dirais, la science implique, hein, une démarche existentielle du scientifique, ne serait-ce que par l'utilisation du temps, hein, de son temps qu'il investit. Mais quand même, il doit garder une distance critique par rapport à l'objet de son étude. Alors, D'autres exemples tout à fait paradigmatiques, quand on a les interventions de chirurgie, en général, on couvre la face du patient. Donc, pour que le chirurgien puisse en fait faire son opération, il faut que pour un temps qu'il oublie qu'il a une personne humaine en face de lui. Et donc on va en général couvrir la face du patient justement pour faire oublier au chirurgien qu'il est en train d'intervenir sur une personne. Et d'ailleurs aussi, du coup, la grande difficulté, peu de chirurgiens acceptent d'opérer quelqu'un qu'ils connaissent. Donc, distance critique. Là, j'ai pris un exemple en médecine, mais on pourrait donner d'autres exemples d'autres sciences. Donc, la science est une pratique extrêmement féconde, mais, et c'est là ma thèse, ce cadre ne permet pas de rendre justice de toute la richesse de l'expérience humaine. Et du coup, la science laisse la place à d'autres démarches de découverte de la réalité. Alors, je vais vous donner trois exemples. Donc la liste n'est pas exhaustive, on pourrait rajouter d'autres exemples, mais trois exemples qui me paraissent particulièrement clairs, où la science ne peut pas épuiser toute la richesse de l'expérience humaine. Premier exemple, la rencontre personnelle. Donc la rencontre avec une autre personne humaine. Il est vrai qu'il y a une certaine place à la mise à l'épreuve, je dirais, dans une relation, surtout au début d'une relation. On va tester un peu l'autre pour voir s'il est fiable, s'il tient parole, comment il est dans son caractère, etc. Mais je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec moi pour dire que quelqu'un qui voulait adopter une attitude soi-disant scientifique dans une relation, c'est-à-dire maintenir cette distance objective, ne pas s'engager, de répéter des expériences pour voir si même dans les circonstances très diverses, la personne va toujours opter pour la même réaction. Une telle attitude scientifique, en fait, détruirait la relation même. Et du coup, il y a un engagement existentiel indispensable, il y a une confiance nécessaire. Déjà, d'ailleurs, je dis entre parenthèses, c'est déjà vrai dans la pratique scientifique, mais quand même dans une mesure beaucoup moindre. Dans l'enquête personnelle, cet élément de confiance, d'engagement, revêt une importance capitale dans la rencontre. Et c'est là, je dirais, la première fenêtre que j'ouvre vers l'expérience religieuse. Dans la conviction des chrétiens, c'est la rencontre du divin et justement la rencontre d'une personne, et qui du coup inclut la dimension de confiance. Déjà donc dans la Torah, dans la loi donc hébraïque qui remonte à Moïse, donc on a ce commandement, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Donc il peut, je veux dire, l'attitude de l'expérimentateur n'est pas adaptée à la rencontre de Dieu. Donc, premier domaine, je dirais, qui échappe à la science, la rencontre de la personne humaine, et donc pour le chrétien aussi, donc l'expérience du religieux, du divin, relève de cette catégorie. Alors, deuxième domaine, c'est l'éthique. Des règles éthiques. La science ne permet pas de fonder l'éthique. Alors, ça c'est controversé. Il y a des personnes qui essayent de fonder l'éthique sur la science. Alors, un effort particulièrement, adapté aujourd'hui, c'est l'effort de fonder l'éthique sur une certaine conception de l'évolution de l'humanité. Donc, on adopte une certaine représentation de l'histoire, de l'origine de l'humanité, et on va essayer d'en déduire des règles éthiques, par exemple, de survie, donc il faut, je veux dire, travailler au bonheur du plus grand nombre. Bon, Déjà, si vous optez pour cette approche particulière, hein, donc pour cet effort particulier de fonder l'éthique sur la science, déjà les règles auxquelles vous aboutissez peuvent être fort diverses. Parce que je pense qu'on vous... n'a pas besoin de beaucoup d'imagination pour voir comment on peut, par exemple, fonder le droit, ou le prétendu droit du plus fort, hein, sur une certaine conception de l'évolution. De dire l'histoire de l'humanité ou des espèces humaines vivantes montre que c'est le plus fort qui s'impose, donc le plus fort doit s'imposer. Alors, bon, d'autres qui ne veulent pas arriver à cette règle éthique vont dire non, si l'humanité a développé des attitudes altruistes, de prendre soin, par exemple, des enfants, des plus faibles, etc., ça doit aussi contribuer à la survie de l'espèce en général, donc il faut s'occuper des plus faibles. Ah, donc vous partez, si vous voulez, du même raisonnement, mais vous aboutissez à deux règles différentes. Déjà, signe qu'il y a quelque part un problème dans l'argumentation. Mais surtout, il y a un problème là où on essaie d'aller de ce qui est vers ce qui doit être. Et en fait, c'est cette transition-là qui n'est pas valable, qui n'est pas possible. Ce n'est pas parce que quelque chose se produit que quelque chose doit se produire. Alors, prenons le droit du plus fort. J'espère en tout cas que vous êtes convaincus comme moi que c'est un droit prétendu et que le fort n'a justement pas le droit de s'imposer au plus faible à n'importe quel prix. Et donc c'est pas parce que nous voyons dans l'histoire de l'humanité et peut-être même dans l'histoire des espèces suivantes, en tout cas si on accepte la reconstruction que nous propose la théorie de l'évolution, donc c'est pas parce qu'on insiste aux victoires du plus fort que ça serait moralement exigé, que ça serait moralement justifié de le faire. C'est pas parce que quelque chose se fait que ça doit se faire. Autrement, bon, je veux dire, c'est la justification facile de la guerre, par exemple, qui est un phénomène récurrent de l'histoire de l'humanité, mais bon, peu on en conclut du simple fait que la guerre se pratique à sa justification. Donc, cette transition de ce qui est vers ce qui doit être n'est pas légitime. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de philo, peut-être le nom de David Hume vous dit quelque chose, donc philosophe anglais du XVIIe siècle, qui a justement mis en valeur cela. Et ici, on prend au sérieux cet argument, cela montre que la science ne peut jamais fonder une éthique, parce que la science décrit ce qui est, et donc ne peut pas nous dire ce qui doit être. Alors, il y a une solution à ça, hein. On peut dire, bon, si la science ne permet pas de fonder l'éthique, ben du coup, il n'y a pas de fondement à l'éthique. Donc une solution sceptique, de dire, la science ne fournit pas d'éthique, donc toutes les règles d'éthique, c'est de la pure convention, on se donne des règles, mais comme ça, je dirais, il n'y a pas de fondement à cela. Alors moi, je ne suis pas prête à suivre cette voie. Et pour l'instant, je ne veux guère faire plus que de faire appel à votre sentiment moral. Donc ce serait un thème différent, je dirais, qu'il faudrait développer. Je vais simplement faire appel, je dirais, à ce que j'espère être notre conviction commune, qu'il est par exemple moralement condamnable de torturer des enfants, que ce n'est pas une simple convention qu'on s'est donnée, mais que c'est une règle qui est valable universellement. Ou encore que les nazis ont eu tort de vouloir exterminer les juifs. Mais dès que j'accepte de telles règles, comme valables universellement, et pas comme simple convention, je dois accepter que la science, justement, ne permet pas de fonder de tels jugements, et que je dois donc chercher un fondement ailleurs. Qu'il y a donc quelque chose, là en l'occurrence, donc l'éthique, ces règles éthiques, qui ne sont pas captés par la science. Alors, on peut même faire un pas de plus et se rendre compte que la science elle-même ne permet pas de fonder sa propre existence. Parce que, qui nous dit qu'il faut faire la science? Je veux dire, qu'est-ce qui nous dit qu'il est souhaitable de comprendre le comportement de la nature? Donc la science, en fait, est elle-même incapable de fonder sa propre pratique, de justifier la poursuite de sa pratique, parce qu'elle ne peut pas se justifier elle-même. Alors, premier aspect, donc, premier domaine dans lequel la science rencontre ses limites, la rencontre personnelle. Deuxième, l'éthique. Alors, troisième élément que je vais vous montrer, c'est l'expérience esthétique. Là, je m'avance encore, mais je pense que chacun dans cette salle ce soir est réceptif à l'expérience de la beauté que vous avez. Chacun a déjà fait l'expérience d'un objet ou d'une expérience que vous avez décrit comme beau. Alors, suivant les personnes, ce sera plutôt un morceau de musique, la peinture, des arts plastiques. Bon, et même suivant les époques, suivant les cultures, suivant les personnes, les critères de ce qui est ressenti comme beau peuvent diverger. Mais il me semble que tous les hommes sont capables d'une expérience esthétique. Mais alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de capter en termes scientifiques ce que c'est la beauté d'une peinture ou d'un morceau musical. Bien sûr, on peut décrire scientifiquement un tableau de peinture, la longueur d'onde de la lumière reflétée aux divers endroits du tableau. Ou encore, on pourrait, pour un morceau de musique, écrire les différents chiffres pour les longueurs d'onde du son. Mais, je pense que vous êtes bien d'accord avec moi pour dire ce qui fait l'expérience esthétique, ce qui fait la beauté d'un tableau ou d'un morceau de musique, n'est pas reflété dans ces colonnes de chiffres. Mais il y a quelque chose de plus que l'homme ressent qui n'est pas capté dans la description scientifique. Alors, en tant que croyante, j'ai tendance à dire la même chose, c'est l'expérience religieuse. Tout homme, semble-t-il, fait l'expérience de la transcendance, et cette expérience ne se laisse pas réduire à d'autres catégories, par exemple scientifiques. Mais bon, j'ai pas voulu, si vous voulez, baser mon argument sur cet aspect-là, parce que c'est justement l'aspect qui en... j'ai une discussion entre le croyant et l'incroyant, et donc je ne veux pas, je dirais, trop m'appuyer sur cette conviction-là, parce que l'incroyant, justement, ne peut guère me l'accorder. Donc j'ai essayé de choisir des domaines qui, là, me semble-t-il, sont plus faciles pour trouver un accord entre le croyant et le non-croyant, et de montrer que la science, effectivement, ne peut pas rendre compte de ces domaines d'expérience humaine. Et au fond, par analogie, je revendique le droit à la rencontre du divin, à la rencontre de Dieu, aussi cette expérience ou cette existence qui dépasse la science. Donc, première grande thèse que j'ai essayé de développer, donc la science ne permet pas de rendre compte de tous les aspects de l'expérience humaine, et donc du coup laisse la place à d'autres démarches de la découverte de la réalité, donc en particulier de la religion, mais ça, si vous voulez, c'est par analogie par rapport aux d'autres domaines que je le déduis. Deuxième grande thèse que je veux maintenant aborder, dans la deuxième grande partie de mon exposé, c'est la thèse que la science a besoin d'un fondement pour, je dirais, les présupposés qui sont sous-jacents à la démarche scientifique. Et ces présupposés qui sont à la base de la démarche, de la pratique scientifique, ces présupposés-là ne trouvent pas de réponse à l'intérieur de la science. Alors, les questions qui m'intéressent là sont des questions qu'on qualifie parfois de méta-scientifiques, je ne sais pas si vous avez entendu ce terme, donc de questions qui dépassent la science et qui concernent la pratique de la science dans son ensemble. Par exemple, une question comme « Pourquoi la science est-elle possible ?» C'est vrai, c'est peut-être une question un peu bizarre à poser dans un IUT de science, on se dit, mais on sait que ça marche. Hein, mais disons, au XVIIe siècle, on ne savait pas encore. Hein, donc quand on a commencé à pratiquer la science moderne, on a dû partir, j'ai une conviction qui était indépendante de la pratique de la science. Et même aujourd'hui, je pense un peu encore prendre ce recul et se dire, mais mince, pourquoi ça marche? Alors, je vous rappelle juste une parole célèbre d'Einstein, qui a dit, ce que le monde a et aura toujours d'inconcevable, c'est qu'il soit concevable. Comment est-il possible que je sais, que vous savez ce qui va se passer si je lâche cette montre, d'ailleurs. Comme tout le monde le sait, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas la casser. Hein. Mais je dirais, vous le savez, et vous n'avez même pas besoin de faire l'expérience. Hein. Je pense que personne dans la salle va dire, mais, ah, on ne sait pas. Hein. C'est vrai, on a souvent lâché des objets et ils ont toujours tombé. Mais qui sait, peut-être la prochaine fois, hein, la montre va s'élever vers le haut. Non, je pense, vous le savez, d'ailleurs c'est pourquoi je ne veux pas faire l'expérience, on sait ce qui va se produire. Alors Einstein parle d'ailleurs à ce propos du miracle. Il dit que la science a besoin d'une telle croyance au miracle, miracle est justement dans ce sens que la nature est prévisible, qu'on peut prédire ce qui va se produire. Une croyance certes confirmée, hein, mais seulement après coup, pas la pratique de la science. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que la foi en Dieu, en tout cas dans le Dieu créateur, dans cette conception de Dieu, où Dieu est le créateur de l'univers, que cette foi-là permet de fonder la démarche scientifique et de donner ainsi une réponse à la question « Pourquoi la science est-elle possible ?» Alors, ce que je ne vais pas faire ce soir, c'est de vous montrer que la foi en Dieu est le seul fondement possible de la science. Hein, donc pour cela, il faudrait regarder d'autres conceptions du monde, par exemple une conception pointilliste, et voir si elle rend compte de la pratique scientifique. Alors bon, je peux vous dire ce que j'en pense. Hein, je pense que, par exemple, la conception pointilliste ne suffit pas pour fonder la pratique scientifique, mais je ne vais pas argumenter cela ce soir. Hein, donc je vais simplement me limiter à une question au fond un peu plus simple et plus circonscrite, de vous montrer que la foi en Dieu est suffisante pour fonder la science. Hein, donc je ne vais pas argumenter la thèse que c'est le seul fondement possible. Parce que là, il faudrait regarder différentes approches et ça déborderait ce que je peux faire dans le temps qui reste. Alors, je vais essayer de vous montrer trois présupposés de la science et vous montrer comment ces présupposés-là se connectent à la foi en Dieu. Le premier présupposé, l'ordre qui régisse la nature. Alors, encore une citation donc là, du mathématicien et philosophe Alfred Whitehead, qui a écrit « Il ne peut exister de science vivante sans une profonde foi instinctive en l'existence d'un ordre des choses et en particulier d'un ordre de la nature. » Je vais répéter parce que la phrase est un peu compliquée. « Il ne peut exister de science vivante sans une profonde foi instinctive en l'existence d'un ordre des choses et en particulier d'un ordre de la nature. » Alors, peut-être vous dites, mais ça va de soi que la nature est ordonnée. On le sait. Mais, pas vraiment. C'est une découverte relativement récente. Disons récente, oui, c'était au XVIIe, XVIIIe siècle. Hein, les Babyloniens, par exemple, avaient réalisé des observations astronomiques précises, très poussées. Et, mais il n'avait jamais tenté de construire des modèles géométriques susceptibles de rendre compte des mouvements célestes. Hein, et donc, finalement, l'idée que la nature suit un ordre bien établi, un ordre qu'on peut décrire par des moyens mathématiques, est une conviction relativement récente dans l'histoire de l'humanité. Et pour faire la science, il ne suffit pas de penser qu'une partie des phénomènes naturelles suivent une certaine régularité approximative. Ça, je pense, tous les hommes de toutes les époques ont pensé cela. Hein, on s'attend à ce que le soleil se lève le lendemain, ou on s'attend à ce que la moisson tombe à peu près à la même époque l'année suivante. Mais seules les observations précises et des calculs serrés montrent que l'année solaire, par exemple, ne compte pas exactement 365 jours. Ça, cette découverte-là, par exemple, n'est pas un lieu commun qu'on pourrait simplement faire en regardant vaguement comme ça la nature, mais il faut des observations très serrées pour se rendre compte de ce décalage. Et l'approche scientifique présuppose justement un ordre précis s'étonnant à tous les phénomènes naturels. Alors, comment peut-on alors en arriver à la conviction de l'univers? Bien. Alors, c'est encore le mérite David Hume, de ce philosophe sceptique anglais du XVIIIe siècle, d'ailleurs peut-être du XVIIe, c'est le XVIIIe siècle, donc David Hume qui a mis en avant le caractère illusoire de cette réponse. Au mieux, l'observation nous permet de constater certaines régularités statistiques, mais elle ne permet jamais d'en déduire une loi universelle. Alors, imaginez une dinde qui est nourrie généreusement tous les jours. Et donc, elle est philosophe avérée, et elle va donc, ou scientifique plutôt avérée, donc elle va faire très attention de faire des observations dans les circonstances différentes. Elle va voir si les jours de pluie, elle est bien nourrie, si les jours de soleil, elle est bien nourrie, si le printemps, elle est bien nourrie, si l'automne est bien nourrie. Et donc, elle en conclut, après avoir des expériences prolongée, que finalement elle sera nourrie tous les jours. Mais erreur, la veille de Noël, elle sera plus nourrie, mais elle sera abattue. Donc, la dinde a fonctionné en bon scientifique, a fait toutes ses observations, mais elle s'est trompée. Et nous sommes en fait toujours dans la situation de cette dinde, si j'ose m'exprimer ainsi. Nous n'avons jamais fait toutes les expériences qui nous permettrait de conclure à l'universalité des lois de la nature. Et donc, cette conviction que la nature et toute la nature est régie par des lois universelles, elle ne peut pas venir de l'observation elle-même. Et la foi au Créateur fournit un fondement à ce présupposé de la science, selon lequel toute la nature suit un ordre précis. Dieu est un Dieu d'ordre qui a créé avec sagesse tout ce qui existe et son œuvre, et donc rien ne peut se soustraire en son règne. Et la conviction de l'ordre universel se trouve donc aussi déjà dans les textes de l'Ancien Testament en particulier, dans la Bible hébraïque. Alors, je ne vais pas vous donner toutes les références bibliques, tous les passages bibliques, je vais juste vous en donner deux ou trois pour que vous sentiez un peu la teneur de ces textes. Alors je vais faire encore une page de pub. Vous les trouvez dans mon deuxième livre. Donc ces différentes références bibliques commentées. Juste deux ou trois exemples. Alors dans le livre de Job, un livre donc de la Bible hébraïque, donc vous trouvez au 28e chapitre, alors pour ceux qui prennent des notes, c'est les versets 25-27. Il est donc Dieu a déterminé le poids du vent et fixé la mesure des eaux. Quand il a déterminé une loi pour la pluie et une trajectoire pour l'éclair et le tonnerre, il a vu la sagesse, il l'a rendu manifeste, il l'a établi et l'a sondé. Juste un deuxième exemple, toujours dans le livre de Job. Donc là, c'est le chapitre 38, les versets 8 à 11. Quelqu'un a enfermé la mer par une porte à deux battants, quand elle jaillissait du sein maternel. Lorsque j'ai fait de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, je lui ai imposé, donc c'est Dieu qui parle, hein, je lui ai imposé mon commandement et installé une barrière, une porte à deux battants. J'ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin, ici on posera une limite à l'orgueil de tes ondes. Alors, je vais simplement me limiter hein, à ces deux textes. Je pense qu'ils font bien ressortir la teneur générale de ces textes de la Bible hébraïque. Alors, bien entendu, je ne suis pas en train de vous dire que la science est enseignée dans la Bible. Vous vous rendez bien compte, hein, ce n'est pas un traité de science, ce n'est pas un traité qui vous donne la formulation mathématique des lois scientifiques, quelque chose comme ça. Hein. Mais c'est dans un langage très poétique, l'expression de cette conviction que Dieu est le maître de l'univers et qu'il a donné sa loi, qu'il a donné ses règles à cette nature. Dans le premier texte que je vous ai lu, donc, il a déterminé une loi pour la pluie, une trajectoire pour l'éclair et le tonnerre. Et dans le deuxième texte, il y a l'idée d'une limite donnée à la mer. Alors ce sont deux textes particulièrement intéressants, parce qu'il parle de lois données, de limites imposées à des phénomènes qui sont de prime abord irréguliers et qui, dans l'Antiquité, ont souvent servi d'exemple, en fait, de désordre, de chaos, de force de la nature qui échappe à toute maîtrise. Oui, que les étoiles suivent des règles bien établies, ça, beaucoup de peuples l'ont senti, et d'ailleurs on trouve hein, là aussi des exemples de textes bibliques qui le disent. Mais les phénomènes météorologiques, et en particulier la mer, hein, étaient souvent modèles en fait des ordres du chaos, hein, du désordre. Et si dans ces textes bibliques disent que Dieu impose sa barrière à ces forces du chaos, c'est dire que sa loi est universelle. Donc, ce n'est pas l'enseignement de la science, mais c'est l'expression de cette conviction que le Dieu créateur est le maître et qui impose son ordre au monde, et donc ce qui permet d'affirmer l'universalité de cet ordre. Et on peut penser qu'effectivement, l'influence donc, de cette idée, de cette conception, s'est fait sentir au début de la science moderne. Alors je vais encore citer Whitehead qui écrit « Je ne crois pas avoir déjà mentionné la plus grande contribution du médiévalisme à la formation du mouvement scientifique. » Donc la science moderne, c'est vrai, souvent on l'a fait démarrer avec Galilée, hein, 17e siècle. Il y a des préludes à la fin du Moyen-Âge. Donc là, donc il parle de la contribution de la pensée médiévale à ce mouvement scientifique naissant. Donc je parle, dit Whitehead, je parle de la conviction inébranlable que chaque phénomène peut être mis en corrélation avec ses antécédents d'une manière parfaitement définie, révélant ainsi les principes généraux qui le régissent. Sans cette conviction, les travaux incroyables des scientifiques seraient vains. Comment cette conviction s'est-elle implantée avec une telle force dans l'esprit européen? Si nous comparons cette qualité de pensée propre à l'Europe à l'attitude d'autres civilisations livrées à elles-mêmes, il semble qu'elle n'est qu'une source possible. Elle doit être le produit de l'insistance médiévale sur les rationalismes de Dieu. Donc Dieu qui allier l'énergie personnelle de Jéhovah, du Dieu donc de la Bible hébraïque, au rationalisme d'un philosophe grec. Le moindre détail était supervisé et ordonné. Donc lien entre cette conviction que le Dieu d'ordre, le Dieu qui crée avec sagesse, et en même temps le maître de l'univers, hein, cette conviction-là semble bien avoir aidé, en tout cas assisté, l'essor de la science moderne. Alors, deuxième présupposé, donc on a parlé de l'ordre qui régit la nature, deuxième présupposé, d'ailleurs toujours en lien avec l'ordre intelligible pour l'homme. Parce que il ne suffit pas qu'il y ait un ordre dans la nature. Pour faire la science, il faut encore que l'homme soit en mesure de comprendre cet ordre, de saisir cet ordre. Hein, donc, rappelons encore une fois la parole célèbre d'Einstein, « Ce que le monde a et aura toujours d'inconcevable, c'est qu'il soit concevable. » Et la vision biblique permet de rendre compte de ce deuxième élément de la pratique scientifique. En fait, la connaissance, la vision biblique permet d'établir un lien entre la nature et l'intelligence humaine, parce que les deux trouvent leur source commune en Dieu. Et en particulier, l'homme, hein, nous dit le premier récit de la création, au tout début de la Bible, donc l'homme crée en image de Dieu, hein, représentant de Dieu. Et donc cette expression, hein, donc l'homme, image de Dieu, en fait, nous montre que l'homme est appelé à vivre en relation avec son Créateur, et il doit donc exprimer quelque chose du caractère de Dieu ici sur Terre. Et cela englobe justement une personnalité avec intelligence, volonté, et donc avec la capacité aussi de comprendre l'ordre que Dieu a instauré dans la nature. Alors, pour ceux qui connaissent, hein, le texte biblique, donc au début du livre de la Genèse, on trouve deux récits de la création. Hein, le premier, justement, utilise cette expression « image de Dieu ». Le deuxième exprime la même vérité dans un langage différent. Il montre l'homme donner des noms aux animaux. Et donner un nom, c'est, en tout cas dans la conception de l'Antiquité, c'est décrire le caractère d'un être. Et me semble-t-il, hein, qu'on trouve dans cette image, hein, dans ce langage très imagé, on trouve finalement le prototype de l'activité scientifique. Donc l'homme qui donne un nom aux animaux, qui saisit en fait, hein, l'être, la réalité, et qui le décrit. Donc, la vision biblique permet donc de fonder la connaissance scientifique, mais elle recuse le scientisme, c'est-à-dire l'idée que la science expliquerait l'ensemble de la réalité. Bien sûr, accepter la vision biblique du monde, c'est en même temps accepter l'idée que la science n'épuise pas le réel, mais en même temps, il y a bel et bien un fondement à la pratique de la science. Alors, je vais juste vous montrer un petit transparent qui là, sous une forme simplifiée, bien entendu, hein, me paraît montrer le rapport entre la science et la foi dans une vision chrétienne. Donc, dans la vision chrétienne, la nature et la Bible, hein, prennent leur source ou ont une source commune. Et donc, il n'y a pas de conflit possible. Mais il y a ensuite, je dirais, une source de problèmes potentiels, c'est que, bien entendu, nous n'avons pas accès direct à la nature, et nous n'avons pas non plus accès direct à la Bible. Mais la science est toujours notre interprétation de la nature, de la création, et notre théologie, ou notre foi, est toujours l'interprétation des textes bibliques. Et là, il y a des problèmes qui se posent, hein, donc épistémologiques, donc qui relèvent de la philosophie des sciences, ou encore herméneutiques, donc qui relèvent de l'interprétation des textes. Hein, et donc là, il y a conflit possible. Mais disons, dans les sources d'origine des deux démarches, hein, il n'y a pas de conflit. En revanche, conflit possible, même je dirais attendu, entre la science actuelle, la théologie actuelle, d'ailleurs, qui sont toujours en marche. Hein, donc la science en particulier, mais aussi la théologie, est toujours en quête, hein, vers une évolution future, Et donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait conflit possible. Et une démarche, je dirais, responsable, hein, est de réfléchir à ces conflits, d'essayer de les résoudre, mais sans les cacher, sans non plus chercher des harmonisations trop faciles. Hein? Donc, la vision biblique permet, ou je veux dire, justement rappelle, hein, que l'ordre de la nature est intelligible pour l'homme, mais elle rappelle en même temps que la science et la théologie, hein, sont faillibles, provisoires, appelées à se réformer à la lumière de nouvelles expériences. Donc, deuxième présupposé, donc l'ordre intelligible pour l'homme. Troisième présupposé, et je terminerai sur cela, c'est l'approche expérimentale. Quand on essaie de caractériser la science moderne en opposition à la science grecque, et d'ailleurs encore à la science au Moyen-Âge, parce que la science au Moyen-Âge était marquée par la science grecque, on vient naturellement à considérer la place de l'expérience. Le progrès, il y a une attitude changée dans l'approche de l'expérience. Bien sûr, on faisait aussi des expériences en Grèce, on faisait aussi des expériences au Moyen-Âge, mais ces expériences n'avaient pas le même rôle. Elles servaient à étayer des positions déjà adoptées, mais elles ne remettaient pas en cause, hein, des cadres de pensée acceptés. Elles n'avaient pas pour objet de faire évoluer les convictions. Et donc là, il y a un renversement décisif, hein, au XVIIe siècle. C'est vrai, Galilée, donc, bon, en tout cas dans les représentations un peu imagées, hein, qu'on donne des conflits entre Galilée et ses opposants. Donc, et parfois, on représente Galilée qui essaye d'appeler ses opposants de venir regarder les lunes de Jupiter par le télescope, hein, de dire, mais regardez, hein, vous-même que j'ai raison. Donc, je dirais, ça, c'est une démarche tout à fait nouvelle, hein, par rapport à la science. Et il est possible, je dirais, de montrer, là même historiquement, hein, donc texte à l'appui, que la conception chrétienne du monde a aidé à faire évoluer la conception de l'expérience. En particulier sur un aspect, par rapport donc à la liberté de Dieu. Par rapport à une conception grecque, hein, donc ce qui caractérise la conception biblique, c'est l'idée de la liberté du Créateur. En Grèce, au fond, on pouvait raisonner sur la nature. On n'avait pas besoin d'aller voir comment la nature se comportait, parce qu'on était tellement convaincu du pouvoir de la raison humaine, hein, que l'expérience servait d'illustration, mais pas de preuve, hein, de pierre, de preuve pour la science. Et c'est Newton qui va en particulier se référer à la liberté du Créateur pour revendiquer la place de l'expérience face à des rationalistes de son époque, en particulier face à Leibniz, hein, donc le philosophe allemand, dont il juge la démarche beaucoup trop rationaliste. Alors, on peut par exemple lire sous la plume de Newton, hein, le monde aurait pu être différent de ce qu'il est. Ce n'est donc pas par une détermination nécessaire, mais par une détermination volontaire et libre qu'il en est ainsi. Donc il n'y a pas de détermination nécessaire. Le monde aurait pu être différent. Le Créateur aurait pu choisir de créer un monde différent. Et il en conclut, hein, bon là c'est plus là, littéralement, c'est la citation de Newton, mais il en conclut qu'il est donc nécessaire d'aller voir comment le monde se comporte, comment la nature se comporte, qu'il ne suffit pas de raisonner sur la nature, mais qu'il faut faire l'expérience pour voir ce qui se passe. La démarche expérimentale donc trouve un appui dans la conviction de la liberté du Créateur, également dans une révalorisation du travail manuel. Alors ça, je pense qu'on a peut-être même oublié, tellement on a adopté, hein, cette autre approche du travail manuel. Mais il faut savoir qu'en Grèce antique, en tout cas, le travail manuel était l'occupation de l'esclave. parce que la matière était vue comme un élément négatif, imparfait. Alors, pour ceux qui ont quelques souvenirs de philosophie, hein, chez Platon, par exemple, vous avez le monde des idées, qui est donc le monde idéal, le monde auquel l'esprit, la raison humaine en accès, et de l'autre côté, le monde matériel, qui est imparfait, qui n'a qu'un reflet partiel du monde des idées. Et celui qui justement manie ce monde matériel, hein, qui fait le travail manuel, ben c'est l'esclave, c'est pas l'homme libre. D'ailleurs, assez frappant, en grec, vous avez le verbe poio, pour faire, hein, poio, je pense que vous sentez, notre mot poète, hein, vient de là. Donc la vraie occupation, c'est pas le travail manuel, c'est pas celui qui traîne dans la boue, hein, mais c'est le poète, c'est celui qui réfléchit, qui fait la poésie, qui fait la philosophie. Hein, c'est ça le vrai travail. Et donc du coup, avec une telle conception du travail manuel, on peut imaginer aussi que le travail de l'expérimentateur, hein, en science est une position assez délicate parce que ça ne correspond pas tout à fait à la dignité d'un homme libre de toucher au monde matériel. Donc la conception biblique, hein, est très différente. Le monde matériel est création de Dieu, création bonne de Dieu, et l'homme a la vocation, et dès avant sa rupture avec Dieu, de façonner cette création, hein, de garder le jardin, encore dans l'image, dans le langage imagé du deuxième récit de la création. Donc l'homme a cette vocation de prolonger la création de Dieu. Et cette interprétation différente du travail manuel avait, par exemple, dans le judaïsme de l'époque du Nouveau Testament, cette conséquence que pratiquement tous les rabbins, tous les théologiens juifs avaient un métier manuel. Hein, pour ceux qui connaissent les textes du Nouveau Testament, l'apôtre Paul, par exemple, exerça de temps en temps son métier de fabricant de tentes. Ce qu'on constate, c'est que le Moyen-Âge reste très largement influencé par la conception grecque. Hein, au Moyen-Âge, il y a toujours cette distinction entre les nobles et les religieux qui ne s'occupent pas du travail manuel, séculier, à l'exception d'ailleurs des moines, hein, qui joignent la vocation spirituelle, vocation de travail manuel. Et c'est la réforme au XVIe siècle qui insiste sur la valeur du travail, soi-disant séculier, et qui combat la distinction médiévale entre clergé et laïc. Alors j'ai entendu quelques-uns parler allemand avant la conférence. Vous connaissez donc peut-être aussi ceux qui ont appris l'allemand. Le terme allemand pour profession, métier, est Beruf, qui vient de Berufung, vocation. Et c'est un terme que Luther a forgé, le réformateur Luther, pour montrer que tout travail relevait de la vocation divine. Et il n'est peut-être pas un hasard que la réforme du XVIe siècle, hein, donc précède tout juste l'essor de la méthode expérimentale moderne au XVIe, XVIIe siècle, qui elle aussi, hein, a besoin d'une révalorisation du travail manuel. Alors, il y aura encore beaucoup de choses à dire sur le rapport entre science de la nature et foi. Il y a des questions importantes que je n'ai pas encore abordées. Par exemple, je n'ai pas abordé la question du miracle. Mais je ne veux pas prolonger maintenant, je pense que vous avez déjà subi mon flot de paroles pendant assez longtemps. Je veux plutôt laisser le temps maintenant aux questions. Peut-être simplement vous rappeler que j'espère, hein, avoir pu vous montrer comment la science laisse la place à d'autres pratiques humaines, y compris la religion. Et j'espère aussi vous avoir démontré que plusieurs des présupposés centraux de la démarche scientifique s'accordent harmonieusement avec la vision biblique du monde. Il est ma conviction que foi et science peuvent se conjuguer en harmonie, même si, le transport en montre, tout conflit n'est pas absent de la relation entre science actuelle et foi ou, disons, théologie, hein. Réflexion systématique sur la foi actuelle. Permettez-moi de conclure avec une citation du célèbre théologien réformé hollandais Bavinck, qui a écrit « Le croyant qui fait profession de christianisme ne voit pas d'autre Dieu gouverner le monde que celui qu'il appelle son Père en Christ. Il se sent chez lui dans le monde. C'est la main paternelle de Dieu dont également tout ce qui se trouve dans la nature vient à lui. » Merci pour votre attention.
De la réalité, c'est-à-dire et justement la liaison qui existe entre l'observateur et ce qu'il observe. Et bien sûr, les conséquences qu'il y a eu dans les nouvelles théories.
Oui, alors je m'excuse hein, pour tous ceux qui ne sont pas physiciens, parce que là on va parler un peu patois de Canaan, disons physiciens. Alors, la mécanique quantique. Effectivement, il y a, je pense, la mécanique quantique a montré en particulier que le déterminisme, donc on imaginait du monde de la physique newtonienne, ne correspondait pas, je dirais, à ce que la science nous montre donc de la réalité. Sur cet aspect-là, je ne pense pas qu'il y ait un avantage pour la réconciliation possible entre foi et science. Certains ont voulu, par exemple, voir dans l'indéterminisme que montre la mécanique quantique la place nécessaire pour les libertés humaines, de dire, bon, vous voyez, les lois de la nature ne sont pas déterministes, donc il y a une place pour l'action libre de l'homme ou l'action miraculeuse de Dieu. Je résiste à ce type de rapprochement parce que la liberté, déjà pour moi, ne s'oppose pas à une détermination par des lois, mais surtout, l'indéterminisme de la mécanique quantique ne me semble pas plus proche d'une action, je dirais, responsable, libre, volontaire, que le déterminisme de Newton. Il me semble que le problème est sensiblement le même. Parce que ce qu'il me faut pour expliquer la liberté humaine n'est pas, je dirais, que les événements se produisent par hasard, mais il faudrait faire place à une possibilité d'action responsable, libre. Donc, sur ce plan-là, je ne pense pas que la mécanique quantique nous apporte quelque chose. Donc, le problème reste posé entre la détermination scientifique et une place pour une action libre. Alors, votre question porte plus sur le rôle de l'observateur. Et effectivement, la mécanique quantique semble montrer que nous ne nous trouvons pas simplement face à une réalité indépendante de nous, mais que notre observation joue sur cette réalité. Alors, ma première réaction serait de dire: pourquoi pas, il me semble que ce que la conception chrétienne du monde exige, c'est que la réalité existe. Je pense, ma conviction de Dieu créateur, du monde aussi comme création, m'amène à dire il y a une réalité extérieure, ce n'est pas une simple construction de l'esprit humain. Mais l'idée que l'observation humaine a une influence sur cette réalité ou sur ma perception de la réalité et que l'homme ne peut jamais complètement se soustraire de cette réalité, je me dis pourquoi pas. Bon, maintenant, à partir de là, c'est vrai, de cette idée, on glisse très facilement vers des conceptions idéalistes ou panthéistes de la réalité. Alors c'est un sujet de débat de prédilection entre mon directeur de recherche et moi. Nous n'avons pas la même conception sur la mécanique quantique et ses conséquences pour la conception de la réalité. Je reste beaucoup plus classique, beaucoup plus réaliste, hein, je dirais, dans ma conception de la réalité que lui. L'interprétation de la mécanique quantique est compliquée et différents avis s'affrontent, en fait.
Je voudrais vous dire pourquoi je vous ai posé cette question. C'est parce que vous avez fait beaucoup référence à Einstein. Mm-hmm. Et Einstein disait en particulier, Dieu ne joue pas au dé. Sous-entendu, c'est très clair, c'est bien comme ça. Or, justement, quand il y a eu l'avènement de la mécanique quantique, là, au contraire, on avait l'impression qu'il jouait au dé. Mm-hmm. Et d'où, bien sûr, de gros problèmes d'interprétation.
Oui, c'est vrai. Bon, si je me suis référé à Einstein, c'est aussi parce que j'ai travaillé sur Einstein en particulier. Effectivement, sur... Einstein a joué un rôle, ils ont eu une position un peu ambiguë, hein, face à la mécanique quantique, parce qu'il a contribué au début, hein, à son évolution. C'est quand même lui qui, le premier, a proposé l'idée de quanta. Hein. C'est bien Einstein qui a eu le premier vraiment formulé, hein, cette idée. Et aussi par la suite, il a encore contribué. C'est vrai, au moment où on se rendait vraiment compte que la mécanique quantique, ou disons ce qu'on savait des phénomènes, disons des atomes, nous obligeait à abandonner le déterminisme classique, c'est là où il a résisté. Hein, où il a préféré en fait se mettre à l'écart de la majorité, hein, de physiciens. D'ailleurs, essentiellement pour des raisons, je dirais, religieuses, métaphysiques, hein, parce qu'Einstein défendait une conception lapentiste, déterministe du monde, suivant Spinoza, hein, le philosophe juif, et par cette conviction que le monde devait être une unité et que tout devait être réglé par des lois déterministes, donc évidemment il ne pouvait pas accepter la mécanique quantique. Je pense que la conception chrétienne du monde nous laisse là une plus grande liberté. Hein.